Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Écoute un peu Johnny Cash. Pour faire plaisir à Luc Ferry, vous m'avez fait une confidence, Luc, qui m'intéresse, parce qu'on est quand même sur Radio Classique, une radio qui aime la musique. Vous m'avez confié que vous aviez payé vos études quand vous aviez la vingtaine en jouant de la guitare. Je ne savais pas que vous jouiez de la guitare.
Oui, j'étais boursier, bien sûr, mais j'ai joué en Allemagne beaucoup. J'ai joué tous les soirs, pendant un an et demi, j'ai joué tous les soirs. Je jouais à la fois de la guitare classique, je jouais les études de Fernando Sor, je jouais Villa-Lobos, je jouais évidemment Asturias de Lebenitz, et je jouais aussi de la country, évidemment. Leonard Cohen, et bien sûr, à l'époque, les Allemands adoraient Brassens, donc j'ai gagné ma vie comme ça pendant tous les soirs, jusqu'à 2h du matin, dans ce qu'on appelle en Allemagne une Kneipe, c'est-à-dire les bars d'étudiants. C'était extrêmement sympathique. Et en échange, le patron de la boîte me donnait à boire et à manger. Et un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, mais enfin un tout petit peu quand même.
Vous jouiez quels artistes ?
Leonard Cohen, Brassens, c'est comme je vous disais, les études de Fernando Sor qui sont très belles. Coros de Villa-Lobos, c'est magnifique. Évidemment, Asturias d'Albéniz, ça marche toujours.
Et ah, puis donc après, un répertoire qui était très large, en fait.
J'avais fait un conservatoire de musique classique, enfin un petit conservatoire de rien du tout, à Mantes-la-Jolie, mais enfin qui était très bon, j'avais un très bon prof. Et donc j'avais fait guitare et violoncelle, mais enfin le violoncelle dans une boîte de nuit, c'est pas terrible. La guitare, et à l'époque la guitare, c'était
un piège à filles.
Oui, le piège aussi. À gonzesse, comme on dit vulgairement.
Luc Ferry, on arrête avec ses souvenirs de jeunesse, mais qui sont toujours agréables.
Il y a prescription, il y a prescription.
On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, oui, ce matin, oui, avec François Geffrier, avec David Barou, oui, et dans nos journaux, parce que depuis vendredi, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, vit une crise de gouvernance, oui, puisqu'elle s'est séparée de son fondateur, oui, Sam Altman. Visiblement, a priori, ne reviendra pas aux commandes de l'entreprise qu'il a contribué à créer. Alors, le point de départ affiché de la querelle serait que OpenAI a privilégié recherche de résultats commerciaux immédiats face à des gens qui disent attention, l'éthique, il faut faire attention, on peut pas aller trop vite, ça peut se retourner contre l'humanité.
Oui, oui.
Bon, il y a une espèce de débat science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Oh, comme c'est beau. En fait, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que, bon, Sam Altman va être probablement remplacé par une dame qui est absolument exceptionnelle, qui est fascinante d'ailleurs, qui s'appelle Mira Murati. Même son visage est incroyable. Elle vient d'Albanie. On n'imagine pas une Albanaise diriger une entreprise de la tech.
Mais on peut tout imaginer, au contraire.
Non, parce que...
Il y a bien Luc Ferry qui joue de la guitare à 20 ans.
Dans ma génération, il fallait vraiment être pour pas faire ça, mais non, elle est fascinante parce qu'elle vient, elle est totalement exotique, elle vient complètement d'ailleurs, elle n'est pas de la Silicon Valley, mais maintenant allons sur le fond, mais regardez quand même cette femme, elle est incroyable, elle est fascinante, mais revenons au fond. La vérité, c'est qu'au départ, le projet d'OpenAI, le projet, donc le créateur de ChatGPT, donc Sam Altman, en vérité, on pense que c'est Madame Murati qui a vraiment créé ChatGPT. C'est elle, la vraie technicienne. Mais bon, en tout cas, Sam Altman, il voulait que ce soit du gratuit et que ce soit en open source. Autrement dit, que toutes les découvertes en matière d'IA soient publiques, soient transmises aux autres, etc. Ce qui s'est passé, c'est que Microsoft a mis pas loin de 15 milliards de dollars dans la boîte. Et donc, pour la transformer en une boîte vraiment performante. À partir du moment où Microsoft met 13 milliards de dollars dans une boîte, vous pouvez bien imaginer que le gratuit, il s'évanouit à la seconde. Et donc Sam Altman, qui était l'homme du gratuit, d'une certaine manière, n'est plus l'homme de l'argent. Voilà, c'est très vraisemblablement ça qui s'est passé, parce que, encore une fois, la compétition est incroyablement forte entre toutes ces boîtes, entre Google, avec Bird. Alors, les problèmes d'éthique sont très différents, en vérité, de ce qu'on affiche dans la presse. Les problèmes d'éthique, il y en a deux catégories. Il y a un premier problème, c'est que ces intelligences artificielles sont pleines de biais. ChatGPT, par exemple, il est wokiste, californien, antiraciste, féministe, écologiste. Enfin, il est tout ce qu'il faut de bien en Californie.
Il n'est pas Luc Ferry.
Non, il n'est surtout pas Jean-Pierre Chevènement. Je veux dire, il n'est pas universaliste et républicain. Il y a une boîte aujourd'hui qui s'appelle Anthropic, qui est financé par Amazon et qui vient de sortir un nouveau ChatGPT qui s'appelle Claude et qui essaye de lui donner des barrières éthiques qui soient vraiment efficaces, parce que dans ces machines, on peut par exemple encore aujourd'hui leur poser des questions, ce qu'on appelle les prompts, des questions qui sont suffisamment bien tournées pour qu'on arrive par exemple à avoir la recette d'un cocktail Molotov ou d'une bombe, si on est un terroriste, vous voyez. Et donc, ils essayent de faire une barrière à ces transgressions de la morale avec de nouveaux ChatGPT, si je puis dire. Donc, celui-là s'appelle Claude. Mais reste que ces bestioles sont bourrées de biais. Donc, ça, c'est une première question d'éthique. Est-ce que les réponses de ces LLM, comme on les appelle, de ces boîtes qui parlent, si je puis dire, qui parlent comme un humain.
Est-ce qu'une intelligence artificielle, ça s'empêche, comme disait Camus, voilà, un homme, est-ce qu'un homme, ça s'empêche?
Un homme, ça s'empêche. Est-ce qu'une machine... Alors, est-ce qu'on peut l'empêcher de donner, par exemple, la recette d'un cocktail Molotov à un terroriste? Bon. Et puis, vous avez une deuxième série de problèmes. Alors là, il y en a beaucoup, mais qui sont les problèmes qui occupent la régulation, notamment au niveau, pas seulement au niveau européen. Par exemple, NIST, donc, qui est une boîte américaine, essaye aussi de fixer les règles avec deux problèmes majeurs. D'abord, dans une entreprise, c'est des pompeurs de données absolument incroyables. Et puis, surtout, le plus important, c'est les deepfakes. Vous pouvez fabriquer des vidéos qui sont absolument parfaites. Je peux mettre la tête de David Abiker sur un film pornographique, ça part dans les réseaux sociaux et vous êtes mort.
Malheureusement, voilà. J'ai pas autant d'énergie que les fictions pornographiques.
Que Houellebecq.
En revanche, j'ai une question.
Je rigole parce que Houellebecq.
J'ai une objection quand même. C'est l'IA outil. L'invité de François Geffrier ce matin, qui était le président de SIA Partner, explique que toute sa boîte est en train de s'y mettre et que les consultants travaillent avec une IA qui est un super assistant qui permet de débroussailler.
De gagner du temps
et qui est d'ailleurs dans un système fermé, c'est-à-dire qu'en fait on nourrit avec des documents de travail internes à la société cette intelligence artificielle, elle ne les partage pas à l'extérieur, mais ça permet, imaginons d'ailleurs que vous nourrissiez vous votre IA avec tous vos articles, tous vos dossiers, tous vos livres, Luc Ferry, eh bien cette IA saurait ou retrouver des raisonnements que vous avez peut-être oubliés pour vous les rafraîchir, vous les remettre en mémoire.
Si elle n'était pas utile, elle n'existerait pas. Il y a par exemple une boîte qui s'appelle Freshwork et qui a fabriqué un logiciel d'IA pour les agences de voyage. Et les agences de voyage, à l'époque des vacances, même toute l'année, reçoivent en permanence des messages, des commandes qui sont souvent contradictoires. Par exemple, un monsieur dit « Ah, je vais partir avec mes enfants le 15 août, je vais aller à l'île Maurice, j'ai 3 enfants. » Et puis il appelle une heure après en disant « Ah ben non, finalement, mes enfants veulent pas venir, je parle juste avec ma femme et du coup on parle le 10 août. » Voilà. Et donc ils ont fait un logiciel pour synthétiser tous les messages, c'est SMS, mail et messages téléphoniques, afin qu'à la fin de la journée, chaque salarié ait le résultat des courses, si je puis dire. Et ils ont calculé qu'on gagnait une heure par salarié par jour, ce qui est énorme. Donc ça peut une heure sur un travail idiot en vérité, ce qui libère du temps pour des activités plus intelligentes. Moi, j'ai une fille qui travaille dans une boîte de mode aujourd'hui à l'étranger, et elle me disait que tous les mails, tous les SMS, tous les courriers sont faits intégralement à 100% par ChatGPT. Alors évidemment, ça pose quand même un problème, c'est qu'on gagne du temps pour faire des choses plus intelligentes, mais ça a un impact sur l'emploi. Goldman Sachs dit que 300 millions d'emplois sont supprimés. Je n'y crois pas, mais en tout cas, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. On ne peut pas l'avoir là en 3 secondes, mais combien d'emplois seront-ils supprimés par ces machines? C'est un grand... Alors, certains disent... Il y aura des emplois créés, mais très peu en vérité, parce que ce sont des emplois extrêmement spécifiques qui supposent des compétences en mathématiques très élevées. C'est data scientists, c'est les spécialistes de la cybersécurité.
Le risque, c'est de rendre surperformants ceux qui déjà performent, et puis d'éliminer ceux qui voudraient avoir un job.
Voilà. Et c'est comme le monde Daniel Susskind dans un livre très intéressant, donc qui s'appelle Un monde sans emploi ou Un monde sans travail, peu importe la traduction. C'est un chercheur à Oxford. Ce qui est nouveau dans cette révolution industrielle, c'est que ça attaque les BAC+10. Pas les bacs moins 3. Et c'est très intéressant, moi, qui étais passionné par la voie professionnelle. En vérité, ce que je ne cesse de dire, d'ailleurs je le dis à Gabriel Attal, si jamais ça lui parvient.
J'espère qu'il nous écoute.
Les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main seront les moins impactés par l'IA. Tête, cœur, main. Pour être clair, le radiologue disparaîtra avant le généraliste et le généraliste disparaîtra avant l'infirmière.
Et l'artiste survivra?
Non. Parce que, ah, pas l'artiste contemporain. Regardez
non,
ça.
Non, l'artiste qui sait dessiner, qui sait peindre, qui sait écrire des chansons qui font pleurer.
Je vois que vous mettez l'art contemporain dans la catégorie des artistes qui ne savent pas dessiner. Mais regardez, vous avez par exemple le portrait de Bellamy. Regardez ça. 432 000 dollars vendus, fabriqués par Dali ou Midjourney. Et vous avez aujourd'hui des œuvres d'art qui sont incroyables, mais dont certaines sont magnifiques.
Mais guidées par des artistes.
Non, pas
elles
du tout.
Elles sont nourries. Les prompts non. dont vous parliez, oui. vous avez ouais. des artistes qui font des prompts tellement sophistiqués qu'ils ouais. arrivent à faire à l'intelligence artificielle des choses qu'elle ne ferait pas toute seule.
Non, mais
le prompt, c'est-à-dire la requête de l'artiste, conduit l'IA à faire des choses
d'accord.
extraordinaires.
Faites un pas de plus. Nous faisons tous exactement la même chose. Il n'y a pas un Bach à piller Vivaldi. Schumann et Chopin ont pillé Bach, et Wagner a pillé Beethoven et ses prédécesseurs. Moi-même, j'ai passé 30 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands. Mon cerveau est un véritable disque dur à partir duquel je travaille. Et donc, ChatGPT fonctionne comme n'importe quel artiste, comme n'importe quel écrivain. On lui a demandé de faire le prochain livre de Stephen King. La réponse en 6 pages est géniale. Géniale. C'est pas étonnant que les scénaristes de Hollywood soient en grève. Donc, faites attention. En fait, ils travaillent exactement comme n'importe lequel d'entre nous à partir d'une base de données personnelle, si je puis dire, à partir de ce qu'on a lu, à partir de ce qu'on a travaillé quand on était à l'école et après.
Justement, Luc Ferry, vous attiriez mon attention quand on a préparé votre séquence du lundi, il nous reste 1 minute 30, sur la réalité de l'illettrisme, qui oui. sera l'objet d'une prochaine chronique dans le Figaro. Et vous disiez,
dis, oui.
voilà, la baisse du niveau en maths, oui. en français est catastrophique, oui. mais compte tenu de ce que vous venez de dire de tous les prodiges de l'IA, moi j'entre en sixième, j'entends Luc Ferry qui me parle des prodiges de l'IA, je dis ben je vais pas foutre grande chose jusqu'au bac. En vérité, je parle trivialement, mais c'est la conclusion que j'en tirerais si j'avais 12 ans et demi.
C'est hélas la question que tout le monde se pose en disant mais voilà, avec cette machine, est-ce qu'on aura encore besoin de penser? Moi je vais vous répondre, mais il faudrait argumenter exactement l'inverse. Je pense qu'au contraire, ça va nous obliger à penser 1000 fois plus, c'est-à-dire à être encore plus autonome, encore plus réflexif, encore plus intelligent. Parce que si on veut pas être bouffé par la machine, il va falloir qu'on travaille sur d'autres choses. La machine est géniale en termes d'information et de connaissances. Elle est nulle en termes de réflexion et en termes d'éthique. Voilà. Mais bon, il faudrait argumenter.
Eh ben, vous argumenterez la semaine prochaine.
Ah ben avec bonheur.
Sur la suite de ce
débat. Et aussi
débat.
Sur l'effondrement des compétences en matière de lecture et d'écriture de nos enfants, qui sont quand même le sujet le plus inquiétant qui soit aujourd'hui à mes yeux.
Merci Luc. Je rappelle à nos auditeurs que pour ceux qui veulent encore lire et qui savent encore lire, vous venez de publier La frénésie du bonheur, et c'est paru aux éditions de l'Observatoire.
Mais c'est un livre grandiose.
À suivre la météo, le flash d'Augustin Lefebvre et Franck Ferrand.